Nous allons nous tourner vers notre passage. Ceux d'entre vous qui se sont connectés les semaines précédentes, vous savez que nous allons dans un passage un peu obscur. Il est moins obscur aujourd'hui, j'espère. Mais comme nous venons de voir, le Seigneur peut l'éclairer. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, vous pourrez trouver ces vidéos qui ont été enregistrées sur plusieurs sites. Il y a une page qui s'appelle L'Évangile pour tous, que vous pouvez trouver sur Facebook. Je pense que c'est même sur mon propre mur. Enfin, il y a de tas de manières de trouver ces pages. Nous avons regardé à deux reprises un passage dans l'avant-dernière prophétie qui est dans l'Ancien Testament. Donc la première partie de la Bible, la partie qui est la plus longue, en fait, l'avant-dernier livre, c'est la prophétie de Zacharie. Donc si vous trouvez le début du Nouveau Testament, vous retournez en arrière, il y a le livre de Malachie, puis le livre de Zacharie. Et nous allons dans le livre de Zacharie, nous avons regardé en détail le chapitre 12, mais depuis le début, je visais le début du chapitre 13, et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui, le début du chapitre 13. En fait, nous allons voir aujourd'hui une source qui est ouverte. Et j'espère que le Seigneur peut bénir ce passage à nos cœurs. Mais de façon à pouvoir avoir un petit peu d'arrière-plan, on va commencer la lecture au verset 10 du chapitre 12, qui est là où Zacharie, c'est-à-dire où Dieu, par la bouche de Zacharie, explique comment il va faire son œuvre. Avant, dans les chapitres précédents, il a expliqué ce qu'il va faire. Maintenant, il dit comment il va le faire, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, chapitre 12 de Zacharie, verset 10. Alors, je répandrai sur la montagne, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Verset 1 du chapitre 13, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Et voilà donc la parole de Dieu, la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va regarder ce verset 1 du chapitre 13, une source ouverte. Mais on a besoin de faire une petite récapitulation quand même, parce que nous sommes dans une portion de l'écriture qui n'est pas tellement familière, il faut le reconnaître. John Blanchard, un des auteurs prolifiques, il dit, ça c'est la zone de la Bible, les pages propres de la Bible, là où on n'a pas trop mis les doigts pour en salir la tranche. Zacharie prophétise au peuple de Juda. Mais remontons un peu en arrière. Le peuple de Juda, c'est la partie du sud du peuple d'Israël qui s'est séparé. Il y a 10 tribus dans le nord, 2 tribus dans le sud. Après un long moment de décadence, décadence spirituelle, bien que parfois c'était la prospérité matérielle, mais une décadence spirituelle, voilà que même le royaume du sud, le royaume de Juda, est emmené en captivité. Les Babyloniens font le siège de Jérusalem, détruisent le temple, le peuple est emmené en captivité et est là tenu esclave à Babylone pendant 70 ans. Et puis, miraculeusement ou providentiellement selon Dieu, le roi de Babylone publie un décret qui permet aux Juifs de rentrer à Jérusalem pour construire le temple. C'est intéressant que le décret stipule la chose. Il y a un tout petit reste du peuple de Juda qui revient, un peu plus de 50 000 en fait, les autres préférant rester dans le confort de Babylone. Ces gens-là rentrent à Jérusalem d'une manière tout à fait miraculeuse, on peut dire. Et le problème, c'est que, voilà, ils rentrent à Jérusalem, mais les murs de Jérusalem sont en ruine. Les ronces ont envahi toute chose. Le temple est en ruine. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus pierre qui soit sur une autre pierre. Et le pays est habité par les Samaritains, c'est-à-dire des colons qui sont implantés dans le pays et qui se sont mis à l'aise, qui sont là chez eux. Ce sont des gens qui, pour eux, ils sont chez eux, et donc de voir les Juifs revenir dans le royaume de Juda, ça n'est pas quelque chose qui leur plaît. Et donc ils s'opposent de manière active et de manière puissante, puisqu'ils sont sur le terrain, on pourrait dire, contre ce peuple. Le peuple a restauré l'autel, mais après ça, suite à cette opposition, suite à la grandeur de la tâche, ils tombent dans le découragement. Et pire encore, ils s'habituent à ce découragement. Nous voyons cela dans les propos du prophète Agée, qui est un prophète contemporain de Zacharie. Mais voilà 18 ans qui passent et Dieu suscite deux prophètes. Un qui s'appelle Agée, que nous avons vu à un autre moment, et puis celui-ci, Zacharie. Un peu en même temps, la prophétie de Zacharie dure un peu plus longtemps et c'est un livre qui est un peu plus long. Ces deux prophètes sont envoyés au peuple pour lui redonner courage afin de redémarrer la construction du temple, la reconstruction du temple, puis plus tard la construction de Jérusalem, des murs de Jérusalem. Mais ça n'est pas seulement cela, parce que effectivement ce sera bon d'avoir le temple debout et d'avoir le peuple en sécurité à l'intérieur des murs de Jérusalem. Mais ce n'est pas en fait ce que Dieu vise. Dieu sait très bien que ce temple-là qui va être reconstruit, qui va être plutôt plus tard agrandi par Hérode, en fait ce temple un jour va être détruit. Il n'y aura pas pierre qui soit laissée sur une autre pierre. Absolument pas. Non, Dieu le sait déjà. Et en fait, ça n'est pas qu'il vise simplement la reconstruction d'un édifice, sinon son projet aurait complètement échoué. Et c'est probablement la perspective qui fait que certains attendent encore une autre construction d'un autre temple. Non, en fait, quel est le but? Quel est l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu n'est pas cette simple étape de la reconstruction du temple au temps de Zacharie. Non, c'est simplement une étape dans un dessein cosmique de rédemption. Le but ultime que Dieu poursuit depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, c'est de glorifier son Fils. Et comment est-ce qu'il va le faire? Parce que son Fils est glorieux, effectivement, mais de le glorifier par le salut d'un peuple issu d'une race rebelle, d'une race qui s'est tournée contre lui, hein, par le salut d'un peuple qui est issu de cette race et qui est choisi, qui vient de toutes les nations de la terre, et même plus, de toutes les tribus de la terre. Et c'est ce que Dieu accomplit moment après moment. Aujourd'hui encore, il le fait. Et c'est pour ça que sa parole est annoncée dans le monde entier. C'est pour ça qu'on peut lire sa parole, qu'on peut entendre sa parole. Il n'y a rien, mes amis, qui se produit dans ce monde que Dieu n'a pas voulu. Et il l'a voulu principalement afin d'accomplir ce dessein suprême de salut qui glorifie son Fils. Alors, bien entendu, on voit tout de suite que le salut, comme toute autre chose, ne tourne pas autour de mon bien-être, ne tourne pas autour de moi. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Ce que nous avons vu au chapitre 12, c'est que Dieu protège et accompagne son peuple, ses élus, à travers toute l'histoire. On a vu que ce peuple est toujours petit et il y a tout qui le menace, mais il est toujours là. Rien n'arrive à ce peuple que Dieu n'a pas mesuré et auquel il a déterminé un terme. Le monde entoure ce petit peuple faible. Le monde est rempli de rage contre Dieu et donc contre son peuple. Et cette rage est alimentée encore plus par celui qu'il serve, Satan, qui est vraiment, qui a une haine farouche de Dieu. Pourquoi? Principalement parce qu'il sait que son temps est court. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Mais bien que nous voyons un monde puissant qui entoure un peuple de Dieu petit et faible, ce n'est pas le peuple de Dieu, ce n'est pas l'Église, mes amis, qui va disparaître. Non, c'est le monde qui va être brisé. Regardez au verset 9 que nous avons vu la fois dernière. « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Et alors, ça n'est pas, on ne parle pas ici d'une conquête qui est politique, géopolitique. Non, mais regardez, aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église, continue. Le monde ne cesse de s'attaquer à elle, mais elle est toujours là. Et petit à petit, nous voyons une âme ici, une âme là, des fois en plus grand nombre, qui se tourne et qui est transformée, qui quitte ce monde en quelque sorte. Et Dieu va répandre, c'est la manière dont il agit, Dieu va répandre sur ses élus, sur son peuple, un esprit de repentance, ce que Zacharie appelle ici un esprit de grâce et de supplication, un esprit de repentance. Alors que Dieu donne la vie à son peuple individuellement, il leur montre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Et le peuple s'afflige d'un deuil authentique, un vrai deuil, pas un deuil de forme, un deuil profond. Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés contre Dieu. Ils ont élevé quelqu'un à la place de Dieu, le moi. Et maintenant, il leur ouvre les yeux afin que ce peuple s'afflige. Et il n'y a pas de croyant qui ne s'afflige pas contre ce qu'il a fait, envers ce qu'il a fait contre Dieu. Et voilà que maintenant, ce peuple, ces hommes et ces femmes et ces enfants, le cœur vivement touché, comme au jour de la Pentecôte, sous la prédication de la parole de Dieu, voilà que ce peuple s'écrie, « Que ferons-nous? Que faut-il faire ?» Voilà l'esprit de repentance. Et c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que je connais cet esprit de repentance? Mais il nous faut avancer, et un point que nous voulons aborder, et c'est celui-ci, la repentance est bonne, elle vient de Dieu, la vraie repentance, la repentance selon Dieu, mais la repentance ne suffit pas. Et c'est très important aujourd'hui de regarder cet enseignement. Dieu a donné la vie aux siens, Dieu a donné la vie à ses élus, Dieu a donné la vie aux croyants. Il leur a donné aussi la repentance, de sorte que, la vraie repentance on parle, de sorte qu'ils se détachent de leurs péchés et ils marchent maintenant en nouveauté de vie selon la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela est à la fois nécessaire pour le salut et indispensable pour paraître dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de raccourci, mes amis. Il est temps de faire une pause et de se demander, est-ce que j'ai reçu de Dieu la vie? Vous savez que le cœur de l'homme est désespérément tordu et trompeur. C'est ce qu'il annonce dans sa parole. Il n'y a personne qui peut le remettre d'aplomb. Et combien il est aisé de se tromper soi-même. Est-ce que Dieu a vraiment touché mon cœur? Ou bien, est-ce que j'ai seulement été séduit, intéressé par un système théologique, par des raisons intellectuelles? Suis-je dans l'Église? seulement parce que quelqu'un de mes parents y est, ou peut-être parce que mon conjoint est là, ou des amis, que sais-je encore. Suis-je dans l'Église seulement parce que c'est ainsi que j'arrive à assouvir mon besoin de contact social? Beaucoup de gens sont dans les églises pour ce genre de raisons. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de raisons. Et nous devons le reconnaître. Non seulement cela, mais ces gens-là sont dans l'Église de manière sincère. Ils veulent être là. Ce n'est pas des gens qui cherchent à tromper. Non, c'est le cœur qui nous trompe, nous-mêmes. Comment le savoir? Comment savoir si je suis vraiment là parce que Dieu m'a donné la vie, une vie de repentance et de foi? Eh bien, est-ce qu'un esprit de repentance m'anime? Est-ce que je vois le péché comme péché? Est-ce que je lui donne des jolis noms pour le rendre plus acceptable? Est-ce que je m'en afflige? Pas simplement parce qu'il me gâche la vie, mais surtout parce que c'est une tâche qui est infligée à l'honneur de Dieu. Est-ce que je répugne le péché? Est-ce que je répudie le péché? Est-ce que je veux m'en détourner? Est-ce que je me fais violence pour m'en détourner? Ce que la Bible appelle mourir à moi-même. Voilà les questions qui se posent d'emblée. Voyez-vous, c'est ce qui se passe chez chacun des élus de Dieu une fois que la vie de Dieu coule en lui ou en elle. On n'est pas chrétien sans cela. On peut se dire chrétien, mais l'être, c'est autre chose. Pour sûr, cela, c'est l'œuvre de Dieu et c'est l'œuvre de Dieu seul. Cela n'a rien à voir avec une sorte de moralité, de rectitude que je me fabriquais. Non, Dieu donne la vie et il est le seul à pouvoir donner la vie parce que c'est lui qui est la source de la vie. Dieu, nous dit l'apôtre, donne le vouloir et le faire. Et donc, maintenant, ayant reçu la vie de Dieu, je veux et je fais. Alors, bien entendu, je ne veux pas, je ne fais pas parfaitement. Pourquoi? Parce que je suis encore dans ce corps, mais je le fais réellement parce que je suis en Christ. Au point que l'apôtre Paul disait lui-même, la vie que je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une nouvelle direction. C'est une nouvelle création. Mais comment peut-on dire que la repentance ne suffit pas? Je suis désolé pour mon péché. J'essaye de faire ce qu'il faut pour m'en détourner, pour réparer tout cela. Et vous dites que cela ne suffit pas? Comment est-ce que vous pouvez dire cela? Ne suis-je pas désolé pour mon péché? Alors, une illustration peut nous aider à ce point. Peut-être pas une illustration qu'on connaît dans la vie de tous les jours, mais cela peut nous aider. Voilà que je passe par un moment difficile, de diverses manières, peu importe. Et pour remédier à la difficulté, j'ai recours au vol. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je dérobe une énorme somme à quelqu'un pour me sortir de mes ennuis. Et pendant un temps, tout va bien. Et je me dis que, bon, finalement, ce n'était pas si grave parce que l'autre, il a suffisamment d'argent qui lui reste. Et puis je me dis bien, bon, quand même, la fin justifie les moyens. Je sais que c'est mal agir, mais il fallait que je me tire d'affaire, n'est-ce pas? La fin justifie les moyens. Mais voilà que dans la providence, je suis pris et démasqué. Et voilà que je fais face à celui que j'ai dépouillé. Et je comprends enfin le tort que je lui ai causé. Alors, face à cela, la tristesse m'envahit. Elle envahit mon cœur. Et elle envahit mon cœur vraiment, sincèrement. Oui, je me repens, je suis désolé de ce que j'ai fait. Et je demande à cet homme je lui demande pardon. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, oui, on peut dire que c'est bien, effectivement, mais cela ne suffit pas. Et d'une certaine manière, l'autre va pouvoir me dire, mais tu sais, tu me demandes pardon, mais on ne mange pas avec des pardons. Ça n'achète rien. Mon cœur s'est détourné de mon forfait, mais cela ne satisfait pas le juge. La justice n'a pas été faite. Je dois restituer ce que j'ai volé. Et c'est là le problème, n'est-ce pas? Donc, on peut ouvrir les yeux sur le forfait qu'on a infligé à l'honneur de Dieu, le fait qu'on s'est séparé de lui, qu'on s'est détourné de lui, le fait que j'ai élevé le moi à sa place, que je me suis déifié et que je l'ai sorti de son trône. Je peux en être désolé et tout ça. Il y a un affront qui a été infligé à Dieu et cela entraîne une punition, un châtiment. La bonne nouvelle a toujours un côté de mauvaise nouvelle parce qu'il faut faire face à la réalité. Et c'est pour cela que pendant un moment maintenant, nous voulons voir la justice de Dieu. Car si Dieu est bon, si Dieu est miséricordieux, il est aussi sûr qu'il est juste, d'une justice parfaite. Et moi qui suis pécheur par nature, qui ne fais pas toujours le bien, moi qui me reconnais pécheur peut-être maintenant, moi qui veux désormais me détourner du péché si Dieu m'a ouvert les yeux, je dois cependant toujours satisfaire la justice de Dieu. Il est pur, tu es pur, tu es parfait, Dieu est juste, absolument sans mensonge. Et la dette encourue par mon forfait, par mon péché, doit être acquittée. Et cette dette, c'est clair, c'est Dieu qui a déterminé ce qu'elle est, c'est la mort. Il faut payer par la mort. J'ai volé telle somme, je dois rembourser telle somme. Et Dieu a dit, c'est par la mort. La manière de payer, c'est de mourir. Et c'est terrible, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas mourir et payer la dette. C'est impossible. Mon ami, est-ce que tu te contentes d'être désolé pour ton péché? Es-tu seulement triste à cause de ta rébellion? Alors, c'est une étape, oui, oui, elle est nécessaire, indispensable. Mais que fais-tu de la justice parfaite de Dieu? Le temps qui passe n'efface pas la dette. C'est ce que les enfants souvent croient. Vous savez, l'enfant fait une bêtise et puis il se cache pendant un temps parce qu'il sait que papa est bien fâché. Et puis, les heures passent et au bout d'un moment, il pense, bon, maintenant le temps est suffisamment passé, sa colère sera retombée. Mais non, en fait, le temps qui passe n'efface pas la dette. Les bons sentiments, les bonnes dispositions n'équilibrent pas la dette. Non, non, elle est toujours là. Dieu clame, d'une certaine manière, pour reprendre les termes de notre illustration, Dieu clame, où est mon argent? Il ne l'a pas reçu. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun de nous s'examine. Beaucoup de gens se trompent en pensant que la tristesse de leur repentance est tout ce qu'il faut. C'est ça qui va expier, qui va ôter le péché, qui va couvrir le péché. Mais ce n'est pas le cas. La dette doit être payée. Et c'est pour cela que le salut de Dieu n'est pas dans les mains de l'homme. N'est pas dans les mains de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable et c'est la chose suivante qu'on veut regarder. Si cela semble une mauvaise nouvelle, non, c'est plutôt un diagnostic de l'état de fait. Aujourd'hui, on peut donner un mauvais médicament parce qu'on a fait un mauvais diagnostic. Et certainement, pour le salut, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Maintenant, regardons. L'homme est incapable. L'incapacité de l'homme. Parce que c'est bien là mon problème, c'est bien là ton problème. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer la dette que nous devons à Dieu. Oh, nous pouvons faire beaucoup de choses qui pourraient satisfaire même un homme, mais nous ne nous sommes pas élevés contre un homme, mais contre Dieu. Que faudrait-il faire? Eh bien, Dieu a donné sa norme, et elle est très claire. Aime le Seigneur de tout ton être et ton prochain comme toi-même. L'as-tu fait? D'emblée, nous voyons qu'il n'y a aucun espoir d'atteindre cette norme. Même si depuis que le Seigneur t'a donné la repentance, tu as fait tous tes efforts, tu sais que tu n'as pas atteint la perfection. Tu sais que tu as trébuché une, deux fois, de temps à autre. Et là, on ne parle même pas de ce qui s'est passé avant. Alors que tout au long, c'était la norme. Non, mon ami, par moi-même, je ne suis pas capable. Pourquoi ? Parce que mon être est tordu dans le péché. Le péché s'attache encore à moi. Et on ne le sait que trop. Chaque journée nous prouve cela. Le péché s'attache encore à moi et il me souille entièrement. Il n'y a pas besoin d'une grosse goutte de poison pour salir tout un verre, même tout un bidon d'eau. Non, le bidon est souillé dès qu'on a mis une petite tache dedans. Si je laisse aller mon cœur, alors je m'aperçois qu'il est encore amoureux du péché par nature. Et on pense tout de suite à ce que disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 7. Il parle, lui, grand apôtre, un homme qui est consacré à Dieu. Il dit, mais il y a des choses que je veux faire, mais je n'ai pas la puissance. Il y a des choses que je ne veux pas faire. Et regardez, avant que je réalise, je les ai faites. Et il en est là à finir avec cette exclamation. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, vous voyez, ce corps qui est attaché à la mort. Que faire ? Que faire ? Que faire ? Eh bien, la réponse est surprenante, en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est là que notre passage entre en jeu vraiment, parce que nous voyons que Dieu a ouvert une source. Une source. Alors, aujourd'hui, nous qui avons souvent l'eau à disponibilité au robinet, on ne comprend pas l'importance d'une source. Mais dans beaucoup d'endroits dans le monde et dans l'histoire, une source, c'était quelque chose de absolument vital, vital et merveilleux. Donc, venons voir cette source, parce que c'est là qu'après m'avoir fait entendre la loi, c'est-à-dire la norme de Dieu, la volonté de Dieu, fais ceci et tu vivras. Aime le Seigneur de tout ton être, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Tout le temps, une fois que j'ai entendu cette volonté de Dieu, alors Dieu me fait voir l'Évangile, c'est-à-dire sa solution. Ma question est, que faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler ce problème? La réponse de Dieu retentit. Rien. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, tout ce que tu fais est entaché par ta nature, par le péché. Quoi ? Je n'ai rien à faire. Mais, et ma dette, et ma souillure, et mon forfait, ça reste. Je ne peux pas ne rien faire, n'est-ce pas ? Je vois mon péché, je vois la souillure que ce péché a entraîné en moi continuellement. Mais Dieu me montre une source, quelque chose en dehors de moi. Une source, mes amis, c'est quelque chose de spontané. Ça n'est pas quelque chose fabriqué. Alors, effectivement, on peut percer dans le sol, mais s'il n'y a pas de source, rien ne va sortir. On peut, en fait, atteindre la source, mais la source est là. Et dès que le trou est fait, la source va couler. De toute façon, elle trouve toujours un moyen de s'écouler. Non, c'est quelque chose de spontané, ça n'est pas quelque chose de fabriqué, ça n'est pas quelque chose que jour après jour je mets en place. C'est quelque chose dont je m'approche, dont je bénéficie. C'est là. Et souvent, on trouve un village, et on se demande pourquoi est-ce que le village est là. Eh bien, il y a très longtemps, le village a été planté à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une source. Je me rappelle moi-même, un jour, parler avec un très très ancien missionnaire et nous parlions d'un lieu que lui et moi connaissions dans le centre du Bénin, une petite ville qui s'appelle Bembereke avec un grand hôpital qui a été très utilisé dans le passé. Un petit peu avec un sourire, il me disait « Mais est-ce que tu sais pourquoi l'hôpital était là ? Parce que c'est moi qui l'ai décidé. » Bon, de manière humaine, qui a décidé de son endroit, du lieu où le mec, tu sais pourquoi l'hôpital est là? Et je dis, non, mais tu vas me le dire. Et effectivement, il me l'a dit. Il me dit, c'est parce qu'il y avait une source. Et cet hôpital qui a duré maintenant depuis des dizaines d'années était là à cause d'une source. Donc la source, c'est quelque chose qui est vital. Vital. Mais remarquez ici que la source dont on parle ne vient pas de l'homme. En ce jour-là, une source sera ouverte. Ça n'est pas vous ouvrirez une source, vous percerez une source, vous creuserez un puits. Non, 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 non. C'est une source qui ne vient pas de l'homme. Et c'est une source qui est ouverte, il nous est dit. Une source sera ouverte. Cela veut dire que cette source coule librement, qu'elle est accessible. Il suffit d'y venir. Et bien entendu, nous savons que cette source, c'est une image. L'image de ce que Dieu fait en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut aborder ce passage dans Zacharie, un prophète un peu obscur et tout ça, au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons, nous commémorons plutôt le fait que Dieu a ouvert une source en Jésus-Christ. Il n'y avait aucun autre espoir. Suivre la Bible, c'était bien, mais impossible à la perfection. Ce que Dieu désire, mais en Jésus-Christ, c'est-à-dire ne venant pas de l'homme, mais par l'homme avec un grand H, voilà quelque chose que Dieu fait. La source est ouverte, elle coule librement, elle est accessible, il suffit d'y venir. Bien sûr, ici, nous voyons que c'est Dieu qui crée cette source et qui la met à disposition. Et c'est pour cela que nous savons qu'il parle de l'évangile, du salut qui est ouvert pour les pécheurs. Je ne connais pas d'endroit où il y a une source, où il y a un point d'eau, et où on met des panneaux défense de toucher. Et il y a des fois, quand on a des rationnements, par exemple, quand il fait des moments de sécheresse, quand il y a des moments de sécheresse, alors on va rationner l'eau et tout ça. Mais si nous venons face à une source, alors il faut vraiment un esprit chagrin pour mettre un panneau défense d'y toucher. Parce que je peux boire à satiété de cette source, mais elle coule, elle continue de couler. Je ne vais pas assécher la source. Non, non, non. Cette source, elle est ouverte et elle coule. Et on pourrait dire, en fait, l'eau est gâchée parce que ça coule sans arrêt. Il faudrait presque emmagasiner, mais on ne peut pas. Et quand on parle du salut, mes amis, le salut que Dieu accomplit en Jésus-Christ, on parle de ce que Dieu a fait. D'une certaine manière, quand on parle au niveau personnel, on voit ce que Dieu fait. Mais il fait parce qu'il a fait. Et dans ce salut, il n'y a pas de restriction. Chacun peut venir. Il n'y a pas de panneau d'interdiction que Dieu aurait placé. Dit, oui, quiconque peut venir, mais pas toi, mais pas toi. Non, non. Celui qui ne vient pas, ce n'est pas parce que Dieu l'empêche de venir. Non, 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 non. Ça, c'est un mensonge du diable. Non. Ce qui l'empêche de venir, ce qui le retient, c'est son état de péché. C'est sa haine de Dieu. C'est le fait que son cœur naturel ne veut pas de Dieu, mais depuis le début. Et de l'autre côté, celui qui vient, c'est Dieu qui le pousse. C'est Dieu qui le pousse. C'est Dieu qui agit d'une manière ou d'une autre. Vous entendez un chrétien qui vous parle, encore récemment, quelqu'un demandait, mais comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es venu à être chrétien, à être croyant? Eh bien, il y a un moment, peut-être on ne sait pas quel est le moment, et peut-être on ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y a un moment où tout d'un coup, il y avait une autre puissance que la puissance de rejet. Vous voyez? Non, c'est Dieu qui le pousse. Dieu lui a ouvert les yeux. Il le détourne de son péché. Il a réglé lui-même la dette. Si bien que sa grâce maintenant, elle coule. Elle coule. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Nous avons, pendant toute la semaine qui vient de passer, nous avons pensé à cette passion du Seigneur, à cette œuvre sur la croix ce fait que l'agneau était immolé et tout cela. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Et il a fait cela. C'est fini. C'est accompli. Quand on entend dire, mon ami, quand tu entends dire que l'agneau innocent a été injustement cloué à la croix, mis à mort, est-ce que tu vois que c'est pour ton injustice? Que c'est ce péché qu'il a payé? Est-ce que c'est pour toi, tu te demandes? Est-ce que ce que Christ a fait, celui qui est juste, qui ne doit pas mourir, mais qui meurt, est-ce qu'il est mort pour toi? Est-ce que c'est pour moi? La parole dit, et il suffit d'écouter la parole de Dieu, une source est ouverte pour la maison de David. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des termes de prophète, n'est-ce pas? La source est ouverte, en fait, non pas pour les hommes ici et là, non. La source est ouverte pour cette postérité qui doit venir. Celui qui a été annoncé depuis le départ. L'alliance n'est pas faite avec toi, avec moi. L'alliance de Dieu est faite entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et cette postérité de la femme qui a été annoncée en Genèse 3,15, qui doit venir, eh bien ce roi qui est ultime, qui a la puissance, ce sacrificateur qui a un sacerdoce éternel, c'est-à-dire toujours valide, eh bien c'est avec lui, c'est pour lui que cette source est ouverte. Vois la promesse, une source est ouverte à Christ et quiconque est en Christ en bénéficie. En fait, c'est par Christ. Vois la promesse, mon ami, et viens te réfugier sous le flot rédempteur de cette source. Car Christ, quand il est mort, en fait, il rachetait, il payait le prix. Il payait le prix de l'esclavage de son peuple et il le payait à son Père. Ce prix a été payé, le rachat est fait et maintenant l'accès à la source est libre. Est libre parce que Jésus en a payé l'accès et il le donne à quiconque vient à lui dans la foi. Toi qui es croyant, mon ami, toi qui es croyante, réjouis-toi, réjouis-toi. Et toi qui te demandes encore si c'est pour toi, eh bien, il n'y a pas besoin de savoir si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi. Tout ce qu'il faut faire, c'est venir. Entendre l'appel, l'invitation et venir. Et c'est la puissance de la résurrection qui fait tourner tes pas vers cette promesse. Nous lisons aussi dans le passage que cette source était ouverte pour les habitants de Jérusalem. Cela ne nous dit rien, franchement. C'est une phrase religieuse. Mais réfléchissons. Les gens de Jérusalem, qui étaient-ils? C'étaient de grands pécheurs. Des gens qui, pratiquement depuis le début, étaient continuellement rebelles. Ils avaient rempli à l'époque de l'exil, ils avaient rempli le temple d'abominations. Il y avait des idoles horribles dans le temple même, ce temple dont ils avaient fait eux-mêmes une idole. Même à l'époque de Zacharie, les habitants de Jérusalem étaient découragés, démotivés, et ils justifiaient même leur découragement. Des gens sans force, des gens sans espoir en eux-mêmes. Et puis, vint le jour où, avec des mains cruelles, ces gens de Jérusalem se sont emparés du prince de la vie. Ils l'ont livré aux païens pour le mettre à mort. Et oui, vraiment, les pires des pécheurs. Voilà ce que Zacharie dit. La source est ouverte pour le pire des pécheurs. Et toi comme moi, nous sommes avec eux, n'est-ce pas? Nous sommes avec eux. C'est une source ouverte pour les habitants de Jérusalem. Donc si elle est ouverte pour les habitants de Jérusalem, elle est ouverte pour toi, elle est ouverte pour moi. Si Dieu t'appelle, si Dieu m'appelle. À commencer, nous entendons le mandat, la voix de Christ qui dit à son peuple, allez, prêchez la bonne nouvelle du salut. Partout dans le monde, ce que le peuple fait depuis. Mais avez-vous remarqué, à commencer par Jérusalem, commencez par les pires, commencer par ceux qui ont le plus de raisons de désespérer. Et il nous est dit que beaucoup, même beaucoup des sacrificateurs crurent. Il ne faut pas penser que ces choses se sont faites en catimini. Non, pas du tout. À commencer par Jérusalem, prêcher la bonne nouvelle. Donc, la source est ouverte pour le pire des pécheurs. Et c'est ce que Saul de Tarse avait compris, c'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce qui émerveillait l'apôtre Paul, continuellement. Lui, le pire des pécheurs, le moindre des saints. Mais, dans le passage de Zacharie, il nous est dit que cette source ouverte, elle était ouverte pour les pires, pour le péché et pour l'impureté. Avez-vous jamais vu des gens qui affirment être sauvés, qui disent s'être repentis, et pourtant, vous les voyez vivre comme si de rien n'était? Il y a beaucoup de gens comme cela dans les églises, quel que soit le nom de l'église, peu importe. Et peut-être est-ce que c'est votre cas? C'est pour cela que Zacharie continue ses propos. La source n'est pas simplement ouverte et accessible. Elle n'est pas simplement accessible au pire, mais elle est là pour le péché, pour l'impureté. Elle est ici pour laver, pour nettoyer. Dans un sens, ce que Christ a accompli sur la croix traitait le péché et l'impureté dans l'absolu. Il a ouvert, il a ôté le péché, il a ouvert la voie. Mais aujourd'hui, si toi, tu es en Christ, alors dis-toi une chose énorme, énorme. Certains disent même que c'est de l'arrogance. Dis-toi une chose, c'est que tu es sans aucun péché, sans aucune impureté aux yeux de Dieu. Oh, à tes yeux, il y en a un paquet. Non, non, ça, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a aucun péché, aucune impureté, à cause de cette source, à cause de ce que son Fils a fait. Voici l'agneau de Dieu, disait Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. Il ne met pas en suspens. Non, il ôte le péché du monde. Peux-tu croire cela? Si tu es en Christ, il n'y a plus rien. Sa mort a englouti le péché. Ce péché dont le fardeau te pèse tant, ce péché qui est toujours devant tes yeux, eh bien, si tu es en Christ, Dieu ne le voit pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. En Christ, ce péché a disparu pour tous ceux que le Père a donné au Fils. Ceux en qui il met la vie, ceux à qui il donne la foi de s'accrocher, de venir à Christ. Si seulement, mon ami, nous pouvions croire cela, alors la vie des croyants, les églises seraient transformées. Nous ne serions plus comme ces pauvres juifs de l'époque de Zacharie, découragés, démotivés, mondains. Non, les regards seraient plutôt sur cette source que sur notre souillure. Si seulement nous pouvions croire cela, nous vivrions différemment. Et c'est notre prière, c'est le désir du cœur du croyant. Car la vie de Christ, cette source ouverte à Golgotha, est communiquée chaque jour par son esprit à tout son peuple. C'est un courant profond chez le croyant. Et elle ne cesse de couvrir, elle ne cesse d'ôter, elle ne cesse de purifier le péché de son cœur, le péché de sa vie. C'est ce que nous voyons dans le reste du chapitre. Loisir, lisez le reste du chapitre 13 de Zacharie et vous verrez cela. Le nom des idoles est exterminé, plus d'esprit d'impureté. Voilà le cœur du peuple nouveau. L'homme aura honte de ce qui vient de lui, parce que le berger a été frappé, le peuple est épargné, un reste seulement, tout petit, oui, libre. Et aujourd'hui, il est de bon ton de voir que nous sommes les croyants, l'Église, c'est un tout petit peuple, c'est quelque chose qui est un peu en marge. Non, ce qui compte, c'est le monde avec ses capacités et ainsi de suite. C'est exactement le contraire. Pour Dieu, ce qui compte, c'est ce peuple. Et ce peuple sera épargné. Ce peuple parviendra à la victoire finale. Ce peuple sera autour de la table, dans le au banquet des noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que Dieu, en Christ, a ouvert une source. Et cette source purifie. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus d'impureté. Mon ami, es-tu venu à la source qui est ouverte? As-tu même entendu qu'il y a une source? Alors écoute, Parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a-t-il ouvert tes yeux pour voir le salut de Dieu? Ou est-ce que Jésus est simplement mort pour donner un bon exemple, pour qu'il élève notre âme de façon à ce que nous fassions tous nos efforts? A-t-il ouvert ton regard? Dieu a-t-il ouvert ton regard pour voir ce que tu as fait? Que tu t'es élevé contre Dieu, la source de la vie. Tu as mis à mort le Fils même de Dieu. N'est-ce pas là une raison suffisante pour désespérer, pour trembler? Oui. Alors, viens à celui qui poursuit un dessein de grâce. Tu ne le mérites pas. C'est pour cela qu'il faut venir. C'est la grâce. C'est donné sans tenir compte du moindre mérite. Vois, la source pure est ouverte. Le Seigneur, le Sauveur, a ôté le péché du monde. Viens laver ton péché. Viens dissoudre ton impureté. Et marche en nouveauté de vie. Pas tant dans la moralité que dans la volonté de celui qui règne. Ça va beaucoup plus loin que simplement faire le bien. Et quand la chair, quand le monde, quand le malin, tous ces ennemis de l'homme te font trébucher, alors viens à la source qui est ouverte pour le péché, pour l'impureté. Vous avez remarqué que là, c'est le futur qui est utilisé dans notre texte. Mais en fait, cette source est ouverte. Elle n'a pas été ouverte, maintenant fermée. Non, non, pas du tout. Et il y a une chose qui est remarquable. Celui qui est venu a une source pour se désaltérer. Et il boit à satiété. Eh bien, vous savez une chose, c'est que très rapidement, il va revenir à cette source. Et chaque fois qu'il a soif, il revient. Il n'a pas d'autres endroits. Non, chaque fois que le péché et l'impureté revient, il faut aller à la source. C'est la source qui est ouverte pour traiter ce péché, cette impureté. Celui qui se fatigue de venir, mes amis, il ment, il montre, il manifeste qu'il n'a jamais goûté. Viens, mon ami, viens, viens, viens encore, jusqu'au jour où tu seras retenu, reçu dans les parvis éternels. Et là, ce n'est même plus la source qui t'alimentera, c'est ce vin nouveau, c'est cette présence, c'est cette joie, cette félicité éternelle qui sera ton partage. Que le Seigneur donne à chacun de nous d'entendre sa voix et de comprendre que ce qu'il a est quelque chose qui est prodigue. Que c'est ouvert non pas à quelques privilégiés. Ça, c'est la voix du monde. Non, non, non. Il y en a assez pour tout le monde. Et il y en a même encore plus. Vous voyez? Non, entends sa voix et viens tout simplement. Que Dieu se glorifie dans chacun de nos cœurs et qu'il bénisse son peuple. Et que son peuple puisse se réjouir. Réjouir même dans les situations les plus diverses, les plus difficiles, les situations qui font peur, ces moments où nous avons peur du lendemain, où le cœur a du mal à dormir, prions et réjouissons-nous avec ce beau cantique. Thank you. Bien, mes amis, nous nous réjouissons dans la gloire du Seigneur, que le Seigneur nous accompagne dans cette journée en nous réjouissant de la victoire de son Fils sur la croix, victoire de résurrection. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, sois béni pour ta parole, sois béni pour ton esprit, touche les cœurs, que ta voix, la voix du berger, retentisse en chacun de nous. Et glorifie ton nom. Amen.